Deuxième partie dans De Noir, quelques romans qui nous ont tiltés, on va dire.
Tout à fait. Donc on va commencer parce qu'on recule devant rien à De Noir. Vous avez peut-être remarqué que les premières pluies arrivent, les premiers frimas, nous sommes hélas en automne. Eh bien, le roman que je vais évoquer s'appelle « L'automne du commissaire Ricciardi ». C'est quand même relativement fort, n'est-ce pas? Encore plus fort, le roman, qui s'intitule en italien « Le jour des morts », enfin j'ai traduit, se termine le 2 novembre, quasiment aujourd'hui.
Et on est presque en direct live, quoi.
Exactement. Et en plus, c'est un dimanche 2 novembre. Donc, ça se passe en 1931, mais n'empêche. C'est la quatrième enquête du commissaire Ricciardi. La quatrième saison, en fait. Il avait commencé en hiver. C'est aussi la plus sombre de ses enquêtes. Mais c'est normal, puisque c'est l'automne. Et l'automne, c'est quand même la pire des saisons. La preuve, même à Naples, il pleut pendant presque tout le roman. Comme dans tous les romans de Di Giovanni, cela se passe donc à Naples, je le disais. Ici, c'est en 1931. Toute la ville est en alerte. La police, les milices sont sur les dents, sont aux aguets, car la fille du Duce doit venir à Naples pour rendre visite à une amie. Je vous rappelle donc, en 1930, c'était l'époque du fascisme en Italie. Et donc, Luigi Alfredo Ricciardi, le flic, est complètement indifférent à cette agitation. Il s'intéresse, lui, à la mort d'un gamin des rues, un scunizzo, comme on dit là-bas. Ces petits gamins qui sont laissés à eux-mêmes.
Je pense que quelques professeurs d'italien de notre connaissance te reprendraient sur la...
Pourtant, j'ai écouté la prononciation, mais bon.
Scognizzo. Voilà.
Bien que sa mort, en fait, de ce petit gamin paraisse naturelle et triste, en fait, il est mort, il a mangé une boulette de viande empoisonnée. Donc, on le sait, ça, parce que Ricciardi va le faire autopsier, bien que sa mort soit naturelle. Les gamins ont faim, ils peuvent manger n'importe quoi. Et donc, même peut-être une boulette de viande empoisonnée. Rien d'anormal. Mais le commissaire, lui, il va prendre pour la première fois des vacances pour pouvoir mener ses petites investigations. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, bien sûr, il sera toujours aidé de son fidèle adjoint, le brigadier Maione, qui lui reste en poste. Et il va enquêter, bien sûr, contre l'avis de sa hiérarchie. Mais ça, il en a l'habitude. Sa hiérarchie est à l'époque extrêmement frileuse et aux ordres. En même temps, ce n'était pas facile de résister à un ordre venu de la police ou de... Ce quatrième roman est encore une superbe réussite. Maurizio de Giovanni poursuit sa description de Naples sous le fascisme, mais sans grandes envolées dénonciatrices. Simplement par petites touches qui décrivent le quotidien des gens, des petites gens et des notables. Et tout le monde qui finalement se laisse enfermer dans les griffes de Mussolini et de ses partisans. Mais il y a aussi Naples, cette ville que De Giovanni adore, cette ville qui même sous la pluie, sous les rigoles de boue, reste belle et terriblement vivante. Et il y a aussi, bien sûr, les gamins des rues qui survivent tant bien que mal, abandonnés à eux-mêmes, parfois secourus par un curé, dont les intentions sont bien moins charitables qu'on ne pourrait le croire. Certains des représentants de l'Église, par ailleurs fidèles alliés des fascistes, faut pas l'oublier, ou certains notables ont des notions de la charité chrétienne qui sont parfois assez éloignées des beaux principes de l'Évangile. Il y a aussi des personnages secondaires qui font tout vivre l'univers de Ricciardi et que l'auteur continue de roman en roman à faire interagir, enfin à faire vivre avec le flic. Ce flic taiseux et solitaire. Donc il y a sa gouvernante qui s'occupe, qui est aux petits soins pour lui, sa voisine qui est secrètement amoureuse, et puis il y a tous les collègues du commissariat, les pires comme les bons. Vous avez sûrement compris, à De Noir, on aime beaucoup les Maurizio De Giovanni et ses enquêtes.
Je crois qu'on a parlé de tous ces romans.
Voilà, ces enquêtes du commissaire Ricciardi, et on se désolait un petit peu de lire que ben voilà, il a fait ses 4 saisons et que ça allait peut-être s'arrêter.
Mais...
Eh bien non, une rapide visite sur le site italien du commissaire, il en a un d'ailleurs.
Je rappelle que c'est un personnage fictif.
Voilà, sur le site de l'auteur, donc Maurizio De Giovanni, eh ben en fait, il y en a encore 5 qui sont pas traduits, il y en a même un qui sort en Italie ces jours-ci, donc rendez-vous dans quelques mois pour le prochain, on vous en parlera sûrement.
Oui, j'espère qu'on va continuer à le traduire. Voilà, ben moi je vais vous parler d'un livre d'un tout autre genre. Dans la première partie d'Onde Noire, nous avons évoqué les 70 ans de la série noire. Voici donc le 8e ou 9e des 10 qui sortent cette année pour un peu fêter ces 70 ans. Et si l'on a retrouvé dans les romans de cette année des auteurs confirmés. J'en ai cité Jérôme Leroy, Dominique Manotti, D.O.A., Jeunesse Beu. Ici, c'est un nouvel auteur.
Jean-Bernard.
Autrice. Ah, bien, Jean-Bernard Fouy, bien sûr. C'est une autrice dont c'est le premier roman dont je vais vous parler maintenant. Elle s'appelle Brigitte Gauthier et son premier roman paru s'appelle « Personne ne le saura ». C'est un roman qui commence par ces mots. « Morte, je suis morte ». Effet certes un peu très théâtral, mais qui résume bien la souffrance, l'état d'esprit d'Anna, qui se réveille aux urgences dans un piteux état. Gueule de bois, drogue. On ne sait pas vraiment, mais ce que réalise vite Anna, c'est qu'on lui a volé une partie d'elle-même, puisqu'elle ne se souvient plus d'une partie de sa nuit. Plus elle réfléchit, et plus elle réalise qu'elle a été une des nombreuses victimes du GHB, la drogue des violeurs, et qu'elle se souvient au plus intime d'elle-même d'avoir été abusée par deux hommes, semble-t-il. Mais comment porter plainte? Comment se soumettre au test? Comment affronter l'opinion publique lorsque ce viol s'est passé dans un club échangiste où Anna a été, de son plein gré, avec son ami Jules, sans aucune contrainte? Anna va devoir chercher au plus profond d'elle-même les ressources pour faire face à cette horreur qui a détruit tant de femmes. Parallèlement, en cherchant ses agresseurs, elle va se trouver face à elle-même, tentant de comprendre qui elle est réellement et comment elle fonctionne depuis plus de 20 ans. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce récit que de déporter la quête de ce personnage de femme abusée, violée, avilie. Certes, Brigitte Gauthier décrit son cheminement de douleur et de doute, celle de toutes ces femmes qui ont subi la même ignominie. Je cite « Demain, je serai le sujet du scandale, la salope qui entache la probité des notables du coin. Je suis devenue de la chair à canon. » Mais très vite, on va s'attacher à l'introspection d'Anna. Jeune femme, disons, moderne, animatrice d'une émission de télé, elle vient de réussir à quitter, de point ouvrez les guillemets, l'éternel, son macho de mari, un Argentin. Ça fait un petit peu caricatural, hein, le macho argentin, mais on y croit quand même. Et puis, elle vit, dans ces jours-ci, une intense passion pour Amar, un amant fougueux, presque idéal, mais qui la fuit. Et qu'elle va bientôt fuir aussi, puisqu'elle doit partir travailler à Hong Kong. En toile de fond, une petite ville de province, ses notables coincés, ses scandales étouffés, une atmosphère lourde et poisseuse qui déteint sur ses habitants, qui se cache un petit peu trop derrière leur tenture. Et là, on glisse un petit peu vers une certaine littérature du 19e siècle, avec en particulier les photographes, un pharmacien. Moi, ça ne peut pas ne pas évoquer Madame Bovary. Dans ce roman, on a aussi beaucoup aimé la structure narrative, avec une première partie assez courte, incandescente, une scansion hachée, rythmée, des mots flashés, qui vont totalement à l'unisson du chaos qui s'installe dans la tête de la jeune femme quand elle se réveille à l'hôpital et qu'elle ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Puis, la narration va s'apaiser, une suite plus lente, au fur et à mesure qu'Anna reconstitue le puzzle. L'auteur, Brigitte Gauthier, est une universitaire, spécialisée entre autres dans la danse et le théâtre. En gros, cela se sent vraiment dans la description des scènes de sexe qui sont très chorégraphiées, ou bien dans la mise en scène très précise de certaines parties, en particulier lorsqu'Anna se retrouve face à elle-même ou face à, peut-être, un de ses violeurs. Voilà, les dialogues sont très, très théâtralisés et ça convient très bien à ce récit. Donc, je rappelle, c'est à la série noire, Gallimard. Ça s'appelle « Personne ne le saura » et c'est une jeune auteure qu'on va suivre, Brigitte Gauthier. Un petit peu de musique ?
Un petit peu de musique. Un jeune musicien, puisque c'est son premier album solo. Mais bon, il a quand même près de 50 ans de carrière avec son groupe. Donc c'est Billy Gibbons, qui est le barbu guitariste, ou le guitariste barbu, de ZZ Top. Et ben, c'est un album qui est très pimenté, très accompagné de percussions. Et là, c'est une reprise, qu'on va dire, hot, d'un vieux blues de Big Joe Williams, qui s'appelle Baby Please Don't Go, dont vous connaissez au moins deux ou trois versions. Please don't go. Baby, please don't go.
Don't go, c'est un petit peu ce que j'ai envie de te dire, puisqu'il ne faut pas que tu partes, que tu fasses cette dernière chronique avant la fin de notre émission. Et là, on va partir très loin dans l'Amérique profonde.
Dans l'Amérique profonde. En fait, d'ailleurs, j'avais choisi ce morceau, puisque Billy Gibbons est un Texan, et que le roman de Joe R. Lansdale se passe, comme tous ses romans, au Texas. Plutôt dans l'est du Texas, non loin de la rivière Sabine. Alors, Joe Lansdale, vous le savez peut-être si vous écoutez En Deux Noirs ou si vous êtes amateur, il a deux séries de romans. La première, la plus fun, ce sont les aventures, plus que les enquêtes d'ailleurs, de Ap et Leonard, deux gaillards, un noir homo, un blanc, meilleurs amis du monde, toujours prêts à se mêler à de sordides histoires et qui n'hésitent surtout pas à faire le coup de poing ou même les coups de feu pour résoudre leurs problèmes.
Ça, c'est la série complètement déjantée dont il faut forcément en avoir un sous la main un dimanche soir de novembre quand il pleut.
Voilà, exactement. Et qu'il a un peu arrêté d'ailleurs. Mais bon, en espérant qu'il va s'y remettre.
Il y en a dans les rayons des librairies.
Voilà. Et l'autre série qu'on pourrait appeler les contes de la Sabine ou de la Sabine River, parce qu'en fait, ils se déroulent tous non loin de cette rivière à l'est du Texas. La Sabine, c'est une rivière qui se jette dans le Mississippi. Et donc l'est du Texas, c'est juste à côté de la Louisiane. Donc on n'est pas loin. Des bayous. Alors ça se passe aussi, comme le roman de Giovanni, dans les années 30, mais vous allez voir, il y a des ressemblances en fait. Là, c'est trois jeunes du coin, Sue Ellen, Terry et Jinx.
Sue Ellen,
je pense que ça n'a rien à voir avec notre... peut-être que si...
Là, c'est dans le Texas, hein.
Exactement. Alors c'est donc deux filles et un garçon, et ils vont découvrir, après une partie de pêche, leur ami, ils vont découvrir le cadavre de leur ami, Maylene, qui avait 16 ans. Cette nana était très jolie, et en fait, elle ne rêvait que de fuir la misère de ce patelin, mais c'est même pas un patelin tellement c'est petit où il n'y a rien, pour devenir star à Hollywood. Hollywood dans les années 30, c'était le début du grand Hollywood, et tout le monde rêvait d'aller là-bas. Surtout les jeunes filles, pour faire carrière, surtout quand on vit dans la boue de la Sabine River. Alors, les trois jeunes, pour accomplir une partie de son rêve, en fait, ils vont la déterrer, la brûler, et puis essayer de rejoindre la Californie pour répandre ses cendres non loin d'Hollywood, comme si, pour qu'au moins elle y ait quand même réussi à aller à Hollywood, plus ou moins. Et leur périple commencera par un long voyage sur une barge qui sera portée par le courant de cette Sabine River, la Sabine River, qu'ils voient tous les jours, et cette Sabine va les mener, au moins essayer d'arriver à la ville pour pouvoir partir plus loin et atteindre la Californie un jour. Mais cela ne va pas être si simple que ça, bien évidemment, on est dans un roman noir, pas seulement dans un conte. Et il va y avoir, parce que Méline, elle avait un petit, elle pensait pas partir comme ça à Hollywood, elle avait un petit magot qui était caché, donc que les gamins, enfin que les jeunes vont retrouver, et donc il va attirer la convoitise de pas mal de gens, bien sûr. Parce que c'est la misère, donc un petit peu d'argent, c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, ce magot, ils vont même avoir, en fait, du coup, à leur trousse, un personnage un petit peu mythique, légendaire, que tout le monde, personne n'a vu, que tout le monde croit avoir vu, mais tout le monde y croit. C'est un personnage un peu assez horrible qui s'appelle Skunk, ou Skunk, c'est difficile. Oui, presque. Et la force, en fait, de ce roman de Lansdale, c'est sa capacité à passer de la réalité la plus réaliste et la plus sordide, la misère des habitants de cette région, à un conte initiatique. Alors, les personnages, on y croit de temps en temps, on n'y croit pas tout à fait, il y a des moments, mais on se laisse prendre dans son écriture, et en fait, dans ce voilà, conte initiatique, le voyage qui va vers le rêve, qui, ou en tous les cas, vers peut-être l'âge adulte aussi de ces jeunes. Mais il n'y a pas que la misère, il y a aussi la corruption et la religion, qui vont parfois ensemble d'ailleurs. En fait, c'est les thèmes, c'est pas mal des thèmes préférés de Lansdale, dans les deux séries d'ailleurs, hein. La condition des Noirs, le machisme aussi, la condition machisme en fait, qui va avec la condition des femmes en fait. Elles n'étaient pas tellement estimées. Et ce machisme qui est aussi imbécile que traditionnel et qui en fait, qui fait que les problèmes se règlent à coups de ceinture en gros. Et il y a aussi cette région, aussi inhospitalière que Belle, que Lansdale adore, il y situe tous ses romans et qui nous décrit de façon parfaite. Autre talent, et pas des moindres, outre celui d'être un conteur hors pair, c'est cette capacité étonnante que Lansdale a à pouvoir prendre la voix d'une ado de 16 ans, tout comme il avait fait dans un précédent roman pour un gamin d'une dizaine d'années, dans le roman magnifique aussi, qu'on ne saurait vous recommander, Les Marécages. Voilà, c'est remarquable, tout simplement, Lansdale est à lire, celui-là s'appelle, donc je n'ai peut-être pas dit d'ailleurs, Les Enfants de l'eau noire, il est paru chez De Noël, et il est traduit par Bernard Blanc.
Eh bien, c'est la fin de notre émission. Donc, bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.